set to play off. Newton steps up, throws for the end zone. Olsen, touchdown! Smith scores, and the Carolina Panthers win in overtime.
Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans l'épisode numéro 22 du Poundcast de Panthers FR. Guillaume au micro pour vous présenter cette émission au cours de laquelle on va enfin parler d'une victoire des Carolina Panthers, la première depuis plus d'un mois, obtenue sur le terrain des Atlanta Falcons. Et pour débriefer ce match en ma compagnie, j'accueille comme à l'accoutumée ces dernières semaines, Thomas. Bonsoir Thomas, comment vas-tu ?
Bonsoir Guillaume, bah écoute ça, super, ça va toujours mieux quand on a une victoire des Panthers à débriefer. Mais puis on va voir tout ça, mais ça fait plaisir après 4 défaites consécutives, il y a un peu de morale de retour.
C'est clair qu'on l'attendait cette victoire, et pourtant on va voir tout de suite avec le déroulé du match que ça commençait pas sur des bases très rassurantes, puisque le rookie Chubbard a fait un fumble sur la première action du match. Donc c'est un petit peu inquiétant, hein. Il y a quelques semaines c'était Sam Darnold qui se faisait intercepter, là un fumble, on s'est dit on commence à connaître la musique, et derrière la défense comme d'habitude qui tient le coup, beaucoup de jeux au sol et une première mi-temps globalement pas très spectaculaire, hein, il faut le reconnaître, un score de 9-10 en faveur d'Atlanta à la pause, notamment grâce à un field goal de Zane Gonzalez juste avant la pause. Au troisième quart-temps, Carolina l'emporte, hein, il remporte ce troisième quart-temps, mais le score reste de 12-10 à l'entame du dernier quart du match. Atlanta en attaque arrive jusqu'en red zone, et là, un drop de Kyle Pitts qui aurait probablement mené à un touchdown, et derrière, les Falcons doivent se contenter d'un field goal qui est manqué par Yongoku. C'est la première fois qu'il manque un field goal de la saison. Et Carolina en profite sur le drive suivant avec deux gros runs, notamment de Sam Darnold. Un touchdown de Chuba Hubbard qui amène le score à 19-10. Suffisant hein, pour prendre deux scores d'avance. Et au final, un dernier field goal des Falcons pour ramener le score à 19-13. Et donc, victoire de Carolina. Et pourtant, personnellement, je ne peux pas m'empêcher d'avoir un sentiment un peu mitigé sur cette rencontre. On ne peut pas dire que c'est été transcendant et vraiment rassurant par rapport à ce qu'on a vu les dernières semaines. Qu'est-ce que t'en as pensé ?
Bah écoute, je suis plutôt d'accord avec toi. Après, je suis quand même très content d'avoir une victoire cette semaine. Parce que bon, 4 semaines de défaites consécutives, on était vraiment dans une dynamique un peu pourrie. La semaine dernière, je parlais d'électrochoc, il me semble, après la grosse défaite qu'on s'est mangée, mais ce match-là on le gagne, est-ce que celui d'après on le gagnera, c'est une autre question. Après il y a quand même des questions qui se posent, parce que on était face à une équipe d'Atlanta où certes Kyle Pitts fait pas un match à plus de 100 yards, mais il manquait quand même un certain Calvin Ridley qui était absent pour raison personnelle. Enfin, d'un autre côté, je me dis qu'il y a quelques saisons, on s'était quand même pris un sacré match de Julio Jones. C'était un cauchemar offensif. Somme, il était à plus de entre 180 ou plus de 200 yards. J'ai plus exactement le chiffre en mémoire, mais c'était catastrophique à regarder. On sent qu'il y a du mieux dans cette équipe. La défense a fait du bon travail. Après, offensivement, il y a des questions qui vont se poser pour les prochains matchs. On va en parler juste après, mais on a Sam Darnold qui est peut-être absent pour le prochain match. Il y a quand même des petits points d'interrogation. On était face à une équipe d'Atlanta qui n'était pas à fond. On a perdu quelques éléments. On a retrouvé la défense qu'on aimait bien. On a réussi à gagner le match. Donc voilà, c'est mitigé, mais j'ai envie de dire mitigé peut-être plus positivement.
Ouais, Matt Rhule dans la semaine avait énoncé une recette pour gagner le match. Et on va voir que les Panthers s'y sont tenus et ça a plutôt bien fonctionné. Le premier ingrédient de la recette, c'était de s'appuyer sur la défense, qui est depuis le début de la saison très solide. À exception peut-être d'un ou deux matchs où ils ont été un peu moins à leur avantage, ils sont quand même l'escouade défensive coachée par Phil Snow est plus qu'efficace. Et on a l'attaque des Falcons, même si tu l'as dit, était un peu diminuée, limitée à 13 points. avec notamment le retour de Shaq Thompson et la première apparition de Stephon Gilmore sous le maillot des Panthers, deux joueurs qui ont été très à leur avantage et bien qui ont bien aidé cette défense, notamment Shaq Thompson, que personnellement j'ai trouvé absolument incroyable sur ce match. Il était partout, il termine avec 10 plaquages, une interception, et puis vraiment une en dehors des stats,
une omniprésence.
Ouais, c'est... et puis une envie même, on a senti que son retour avait fait quelque chose,
boosté
ouais. L'équipe, ouais, c'est ça, et tout le monde autour. Hein,
Bah c'est ça, en fait, on n'avait plus vraiment l'impression d'avoir un trou en fait en plein milieu de la défense. Là, on a vraiment l'impression qu'on a retrouvé un atome et que du coup les électrons peuvent regraviter un peu autour. C'était plus juste dans le jeu défensif, j'ai trouvé surtout. Bah, ça a aidé un peu partout, quoi.
Ouais, parce qu'il dirigeait bien. Moi, je me souviens d'une action aussi où il est, alors je crois que c'est Cordarrelle Patterson qui part sur le côté, et puis Shaq Thompson arrive lancé comme un boulet et réussit à le plaquer par derrière, à le rattraper, alors que pourtant Cordarrelle Patterson est plutôt un joueur rapide. Donc c'était assez impressionnant de le voir comme ça, et puis vraiment amener du cœur. Dans cette défense, c'était vraiment agréable. À ses côtés, Hassan Reddick a fait ce qu'il fait globalement depuis le début de la saison, avec notamment une très bonne première mi-temps. Et Stephon Gilmore, donc je le disais, premier match pour lui, et même s'il a eu un rôle plutôt limité, puisqu'il a principalement été aligné au poste de nickel corner, il a bien muselé Kyle Pitts, et je crois que tu as bien aimé son match.
Ouais, tout à fait. Ben, j'en parlais après, mais franchement, c'est quelque chose qui a fait plaisir. Gilmore, c'est ce que j'attends de lui. Voilà, c'est du flamboyant, c'est de la limitation pour le receveur, et puis la petite interception qui fait énormément plaisir, surtout à ce moment-là du match. Voilà, c'est pour l'instant c'est de la satisfaction.
Ouais, l'interception qui, on va pas dire qu'elle scelle la victoire en fin de match, mais C'est tout comme. Je le disais, Kyle Pitts bien contenu, puisque comme tu le mentionnais, il sortait deux matchs à plus de 100 yards. Là, il est limité à 13 et deux réceptions. On a un peu plus vu, par contre, Cordarrelle Patterson et TJ Sharp au niveau des receveurs. Mais globalement, l'attaque aérienne des Falcons a été plutôt bien contenue. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est l'intérieur de la ligne défensive, avec Derrick Brown et Dequan Jones, hein, le duo qui est efficace. Au sol, les Falcons ont quand même trouvé des brèches, mais c'était principalement sur les extérieurs. Et c'est vrai que l'intérieur de la ligne était bien, bien contenu par notre duo de defensive tackle. Est-ce que tu avais d'autres éléments qui t'avaient marqué, toi aussi, sur cette ligne, par exemple ?
Bah, sur cette ligne, bah, voilà, t'as parlé de Brown et Jones, mais... Et j'en parle, enfin, à chaque fois, on en parle un peu dans tous les débriefs, mais Hassan Reddick, quel joueur, franchement, il est toujours lancé sur le quarterback. Là, il nous fait encore un sac, mais c'est franchement très très fort. Il est au gros matos. Ça fait plusieurs saisons aussi maintenant que je dis que j'aime beaucoup ce joueur. Voilà, on l'a retrouvé parce qu'il avait été blessé un peu en début de saison. Franchement, ça fait très plaisir de l'avoir ici. Et puis voilà, le duo Burns, qui fait de bonnes choses. Après Burns, voilà, il fait quand même quelques erreurs sur ce match. Il fait des petites fautes un peu bêtes, qui amènent notamment à une jolie petite avancée pour les Falcons et qui leur offre la possibilité de taper le field goal qui passe. Voilà, ce sont des choses qui arrivent et après, je crois très bien à la qualité de Burns pour corriger ce genre d'erreur.
Ouais, c'est effectivement, je te rejoins là-dessus. Moi, c'est le petit bémol que j'avais sur la défense, c'était ce genre de pénalité un peu bête, excès d'engagement, on va dire. Mais pour un joueur qui est dans sa troisième année, j'aimerais bien qu'il puisse corriger ce genre de défaut. Jermaine Carter aussi commence depuis quelques semaines, il est un peu plus en difficulté. J'espère que le retour de Shaq Thompson lui permettra de retrouver le niveau qu'il avait en début de saison, parce qu'il semblait un petit peu esselé dernièrement. Donc voilà, c'est à surveiller aussi. Au niveau des defensive backs, pas grand-chose à signaler. Hein. On l'a dit, ils ont plutôt bien tenu les receveurs adverses. Hein. Dante Jackson, Jeremy Chin ont été présents. Donc, pas grand-chose à rajouter là-dessus. Du côté de l'attaque, c'est le deuxième point de la recette Matt Rhule, c'était d'avoir du jeu au sol, beaucoup de jeu au sol, s'appuyer sur les coureurs, et on l'a vu, 47 courses au total, plus de 200 yards gagnés, en comparaison 24 passes tentées par Sam Darnold, ça fait un ratio de 2 pour 1. Le gros du jeu de course, c'était pour Chubb Hubbard, qui, après son fumble, termine avec donc un touchdown et 82 yards au sol. À côté, il a été bien aidé, notamment par Amir Abdullah, qui est arrivé dans le roster il y a 2 semaines, et qui fait un très bon match avec plus de 60 yards course et réception cumulées. Qu'est-ce que tu as pensé de notre trio de coureurs auquel j'ajouterai Royce Freeman?
Bah écoute, ça a fonctionné, on a réussi à avancer. Bon, c'était, on est quand même, ouais, comme tu disais, 47 courses, 203 yards, on est à quelque chose comme 3,41 yards par course. C'est quand même, ça pourrait être mieux, quoi. On se dit, voilà, on a réussi à avancer. C'était pas un total hyper élevé quand on sait qu'on a quand même, fait deux courses, pardon, pour une seule passe. Voilà, il y a eu un avantage de ce côté-là. Après, je doute très clairement que ça marche à tous les matchs. Ça a marché sur celui-là. Il va falloir réussir à s'adapter pour la suite. Parce que... Enfin voilà, on peut faire mieux. On a Sam Darnold qui a réussi un peu à avancer. Malheureusement, il réussit aussi à se prendre un méchant coup justement en courant. C'est un peu le risque avec les quarterbacks quand ils partent un peu trop à l'avant et qu'il y a des joueurs défensifs. On en saura plus, je pense, dans la semaine sur son état, à savoir est-ce qu'il jouera le prochain match. Néanmoins, ça a marché sur ce match, donc voilà.
Ouais, parce que Sam Darnold, justement, on va parler de lui. Donc il est en protocole commotion hein, pour un coup reçu en fin de match sur un plaquage où il était parti à la course. Il a été aussi, lui, bien à l'aise au sol, avec 66 yards en 8 courses, dont deux grosses courses de plus de 20 yards en fin de match. Aussi, quelques sneaks et quelques conversions sur les troisièmes tentatives qui ont été bien aidé et bien senti. Après, voilà, ça amène au troisième argument et au troisième ingrédient de Matt Rhule pour faire gagner cette équipe, c'est de ne pas perdre le ballon. Alors, il y a un turnover de Chubb Hubbard, mais Sam Darnold, lui, ne fait pas d'interception, ne fait pas de fumble. Et ben voilà, c'est peut-être ça, hein, le secret pour faire gagner l'équipe avec Darnold en quarterback, c'est d'éviter de lui faire lancer trop de passes, tout simplement. Parce que c'est vrai qu'on a insisté sur le jeu aux courses, mais personnellement, dans le jeu aérien, je n'ai pas encore trouvé ça très très flamboyant. Il y a quelques connexions avec ses receveurs qui se font pas, c'est pas toujours de sa faute. Là encore, hein, on a mentionné les problèmes de drop ces dernières semaines, il y en a encore eu quelques-uns hier. Mais voilà, s'il y avait quelques passes bien senties, globalement, j'ai pas senti une vraie menace aérienne quand Sam Darnold se mettait en position de lancer. Qu'est-ce que t'en as pensé?
Bah écoute, j'attends mieux, enfin... Sur le jeu de passe, voilà, on a encore la possibilité de faire un peu mieux, parce que voilà, on a un Darnold en plus qui est pas spécialement toujours en réussite. Quand on voit que uniquement 134 yards à la passe, c'est faible. On en revient à ce qu'on disait la semaine dernière. En plus de ça, on a des receveurs. Bon, on a Robbie Anderson qui se prend un sacré coup sur une réception. La réception était bien, elle nous faisait gagner un beau petit, elle nous faisait gagner le first down et un tout petit peu plus, il me semble. Mais voilà, il y a ce coup qui reçoit et qui le fait lâcher la balle et qui finit en une complète passe. Mais bon, enfin, déjà il allait mieux sur la fin du match, donc c'est un point positif pour Robbie Anderson. Mais voilà, j'en parlais juste avant pour le jeu au sol, je me pose la question, est-ce que ça va marcher entre guillemets sur toute une saison? Enfin, certes ça marche sur un match, mais en attendant, en NFL on voit toujours en général qu'on avance plus là, par la passe, quoi. Ce serait... J'ai du mal, en fait, à voir le game plan offensif tenir sur plusieurs matchs consécutifs.
Bah, faut voir aussi ce que ce game plan donnerait avec un retour de Christian McCaffrey, hein, qui est toujours sur la liste des blessés, qui devrait revenir. Il peut revenir dès le prochain match, ce sera peut-être pas le cas, mais il devrait revenir d'ici quelques semaines, donc peut-être ça aidera à continuer. Mais c'est vrai que, comme tu le dis, tu donnais tout à l'heure la moyenne au sol des running backs, on était autour des 3 yards et demi, je sais plus combien par course. C'est pas une moyenne qui te fait gagner beaucoup de matchs en NFL, même avec une grosse défense, hein, les plus anciens fans des Panthers reconnaîtront un peu l'ADN de Carolina, hein, avec une grosse défense et un gros jeu au sol. Mais effectivement, je ne sais pas si ça suffira en 2021 pour faire gagner beaucoup de matchs. Il y a quand même la ligne offensive qu'il faut mentionner, parce que c'est vrai qu'on a été assez dur avec elle ces derniers temps, notamment parce qu'on s'attaquait souvent à elle via le prisme de la passe pro. En run block, ça a été quand même très solide hier, et globalement, il se débrouille plutôt pas trop mal. Il y avait Trent Scott qui avait été titularisé au poste de garde droit en l'absence de John Miller. Finalement, aucun sac concédé, donc au final, même le passe pro était pas trop mal. Et puis, comme on l'a dit, hein, plus de 200 yards au sol. Donc finalement, peut-être que on n'a pas une ligne offensive qui est très optimisée, on va dire, pour le pass pro, mais sur le jeu de course, il y a peut-être quelque chose à faire.
Ouais, c'est ça, va falloir essayer. De toute façon, on sait qu'on va être en galère pendant toute la saison avec la ligne offensive, donc bon, ça coûte rien d'essayer de voir qu'est-ce qui marche le mieux entre la passe et la course. Faut tester différentes combinaisons sur la ligne. On a vu qu'il y avait certaines combinaisons qui marchaient moins bien et d'autres encore moins bien. Mais voilà, comme tu dis, on a pas mal tapé sur la ligne offensive ces derniers matchs. Donc bon, là, on peut un peu souligner que ça a été quand même relativement solide.
Ouais, d'autant qu'en plus, on sait que l'intérieur de la ligne offensive, on l'a mentionné plusieurs fois, était un petit peu plus un peu friable. Il y avait quand même Grady Jarrett en face, et je crois qu'il a été sur une action où il était pas loin de réussir le sac, mais sinon il a été plutôt bien muselé et bien tenu. Donc voilà, c'était la sixième combinaison différente de ligne offensive, je crois, depuis le début de la saison. Il me semble que Matt Rhule a dit quelque chose comme ça dans sa conférence de presse aujourd'hui. Mais voilà, globalement, plutôt une bonne prestation, hein, hier, il faut le souligner. On n'a pas beaucoup parlé des receveurs. Il y a guère que DJ Moore qui a été un petit peu en vue avec quasiment 60 yards à la réception. Tommy Tremble fait aussi deux belles réceptions. Mais je crois que tu aurais aimé voir un peu plus de la part de DJ Moore encore.
Ouais, c'est ça. Bah ouais, on peut encore attendre un peu plus. Après, comme on le disait juste avant, quand on tente, voilà, on a tenté que 24 passes. Il y en a 13 qui sont complétées. Si on lance pas un peu plus, DJ Moore pourrait peut-être toucher encore un peu plus. Et puis il y a aussi surtout cette action sur le touchdown, enfin sur le potentiel touchdown. C'est, je vais en parler, je spoil un peu, mais c'est mon flop. C'est mon flop d'ailleurs. Bah, je vais lancer dessus. C'est le mon flop pour moi cette semaine. C'est vraiment la règle sur la réception pour le touchdown. Je ne comprends pas. Enfin, c'est-à-dire, je comprends tout à fait la règle, mais l'application est parfois, j'ai envie de dire, particulière, dans le sens où, quand même, il met les deux pieds dans la end zone, il a le contrôle du ballon à ce moment-là. Certes, à la fin, quand il chute en dehors de la zone de réception, il perd le contrôle du ballon. Mais c'est, je sais pas, c'est une règle que je trouve peut-être un peu incohérente, un peu pas pratique entre guillemets, dans le sens où on en parlait avant l'émission, et Guillaume le souligne. Le running back, il va courir, il va avoir le ballon en main, il va juste entre guillemets avoir à passer, pardon, au-dessus du lui faire passer le ballon en fait dans la end zone, alors que le receveur, en l'occurrence DJ Moore, réussit à l'avoir, à le garder en main le temps qu'il ait les deux pieds dans la zone. Au final, il tombe en dehors, ah, il perd le contrôle, mais est-ce qu'il aurait pas pu être accordé? C'est une autre question. La règle est comme elle est, malheureusement, mais ça devient un peu une habitude de critiquer certaines règles, mais ça fait partie des règles que je trouve quelque peu particulières, on va dire.
Ouais, ben oui, t'as bien décrit l'action, hein. C'était en fin de premier quart-temps. Les arbitres ont vérifié, parce que Matrou l'a challengé quand même, hein, cette action, mais effectivement, ils sont restés sur leur décision de ne pas accorder le touchdown. Et je comprends le sentiment, mais malheureusement, la règle est comme ça. Et personnellement, je trouve ça, somme toute, normal et en adéquation avec le règlement que le touchdown n'ait pas été accordé. Pourtant, Dieu sait que j'aurais bien aimé qu'il le soit. Un petit peu plus positif, je crois que tu avais un top.
J'ai mis un top et cette semaine, bon, on en a parlé un peu au-dessus. C'est mon côté un peu aussi South Carolina qui vient quand je dis ça, mais j'ai envie de dire Stephen Gilmore. Ah voilà, premier match du côté des Panthers, il fait quand même un bon match, pas dans son rôle exact habituel, mais il va quand même nous faire une interception à un moment du match qui est relativement important, parce on avait Atlanta qui était en train de remonter pour essayer bah justement de remonter aussi un peu au score, voilà. Non, il nous fait un bon match, il accorde que deux réceptions pour Kyle Pitts, 13 yards, c'est plutôt pas mal. Après voilà, on va le voir après comment ça va donner sur plusieurs matchs avec un rôle peut-être plus important dans les semaines à venir. Il y avait peut-être un peu de préservation sur ce match pour éviter toute blessure ou quoi que ce soit, mais très optimiste vis-à-vis de Stéphane Guimard.
Ouais, ben moi, écoute, mon top, c'est un joueur dont on n'a pas encore parlé parce que je l'avais gardé un petit peu pour cette section. C'est le kicker Zane Gonzalez qui termine avec 100% de réussite au coup de pied, avec deux field goals notamment de 51 et 57 yards. Ce dernier étant d'ailleurs son record en carrière. Donc voilà. Et puis juste avant la mi-temps, le timing était vraiment parfait. Donc franchement, voilà, super match de sa part. On avait eu quelques doutes au début quand il est arrivé. Et puis là, sur ses derniers matchs, il est bien à l'aise. Donc ça fait plaisir d'avoir un kicker qui réussit régulièrement des field goals de plus de 50 yards. Espérons que ça continue. Et du côté du flop, j'ai noté PJ Walker. Alors, c'est pas spécialement sur ce qu'il a montré hier, parce qu'il a joué trois actions, encore que. Quand il est entré en jeu après la sortie de Sam Darnold, il a manqué se faire intercepter dans la red zone, même dans la end zone, sur le première action. Donc c'était pas très rassurant, mais c'est alors rien de personnel contre lui, mais j'ai un petit peu de mal à saisir ce que Matt Rhule typiquement peut voir en lui, parce que quand il est sur le terrain, on peut pas dire qu'il soit vraiment bon. Alors, il fait des passes, j'adore ses passes. Hein. Franchement, elles sont rapides, il y a beaucoup de vélocité, elles sont vraiment magnifiques à regarder partir. Le problème, c'est qu'une fois sur deux, elles atterrissent dans les mains d'un adversaire ou sur le sol. Donc, c'est un peu gênant. Et puis, je vois pas en lui un énorme potentiel, parce qu'il a déjà 30 ans, si je dis pas de bêtises. J'ai du mal à l'imaginer comme mentor d'un jeune quarterback, donc voilà, je sais pas trop. Même c'est pas vraiment un game manager non plus, donc s'il faut remplacer le QB1 blessé, c'est pas vraiment le profil que j'imagine non plus, donc je ne sais pas trop. On verra, hein. Peut-être qu'il va me faire mentir s'il est titularisé la semaine prochaine, il va peut-être nous sortir un match à 400 yards, mais voilà, pour l'instant, en l'état, j'ai un petit peu de mal à voir ce qu'il peut apporter. Matt Rhule a annoncé que ce serait lui le titulaire si Sam Darnold ne pouvait pas jouer dimanche, donc on verra. Justement, peut-être un mot sur le coaching quand même, parce qu'on l'avait pas mal critiqué, notamment Joe Brady et Matt Rhule la semaine dernière. Bon, on l'a dit, hein, c'est peut-être pas forcément la recette miracle qui marchera chaque semaine, mais au moins ils s'en sont tenus à leur plan de jeu. Ils avaient annoncé vouloir plus courir, ils l'avaient pas trop fait face aux Giants la semaine dernière. Là, ils l'ont fait, ça se termine avec une victoire, donc c'est du tout bon, j'ai envie de dire. Est-ce que tu avais noté des choses sur ce duo?
Bon, non, pas spécialement, mais voilà, ils ont, comme tu dis, ils ont essayé d'adapter le plan de jeu, ça a marché. Voilà, faut que ça continue comme ça, puis on va espérer que ça continue sur la bonne pente vis-à-vis de ce duo-là, quoi. Parce que la semaine dernière, j'avais été peut-être un peu dur avec Joe Brady, mais bon, sur ce match, voilà, on réussit à avancer, on réussit un peu à marquer, même si ça n'a pas toujours été flamboyant. Mais j'ai espoir en fait que ça puisse continuer de s'améliorer.
Ouais, parce que le play call n'était pas spécialement, j'allais dire, innovant. Hein. C'était du classique, mais ça a fonctionné. Donc,
C'est ça, revenir un peu sur les
voilà, on est
bases.
revenu sur les bases. Et l'important, c'est de ramener le bilan des Panthers à 4-4 hein, avant d'affronter donc les Patriots dimanche prochain à Charlotte, un retour à la maison avec un match qui, forcément, aura une saveur toute particulière pour Stephon Gilmore. Il aurait pu avoir une saveur encore plus particulière pour nous si les Patriots avaient gardé Cam Newton en quarterback, mais ce sera Mac Jones hein, que beaucoup à la draft voyaient arriver aux Panthers. Donc pareil, hein, ça va être. J'imagine qu'il y aura pas mal de headlines par rapport à ça. Côté Panthers, on verra qui sera quarterback. Hein, Sam Darnold, on attendra de voir. Et puis, je ne sais pas trop qu'espérer. Est-ce que tu. Parce que, très honnêtement, pour donner un peu les coulisses des pronostics qu'on fait hein, sur le Discord, on est quand même globalement assez mauvais, hein, faut le dire, pour pronostiquer les scores des Panthers. Donc, je n'ose m'avancer sur un résultat. Comment tu vois ce match, toi?
On a vu, comme tu dis, on a vu cette semaine qu'en pronostiquant une défaite, on avait eu une victoire. Donc, j'ai pas envie de dire une défaite, parce que bon, j'aime pas spécialement parier contre mon équipe. Non, il y a peut-être des motifs d'espoir. Puis voilà, on est face à une équipe de New England qui peut faire du très bon, comme qui peut faire, enfin, qui peut faire aussi du beaucoup moins bon. On va espérer que ce sera du beaucoup moins bon, ce serait sympathique pour nous. Après, voilà, il y a la question de qui est-ce qu'on aura en tant que quarterback. Mais bon, on va voir ça. Et si je me jette dans un prono, j'ai peut-être envie de dire Panthers 22, Patriots 17. Mais ça va peut-être varier en cours de semaine en fonction des différentes news qui vont passer.
C'est clair, je te trouve bien optimiste pour un lundi
Un peu,
soir sans savoir qui sera quarterback, mais bon, espérons, hein, peut-être que
ouais.
ça va être le match, effectivement, comme on le disait tout à l'heure, où PJ Walker va se révéler. En tout cas, nous, c'est là-dessus qu'on va terminer notre émission. On vous remercie hein, de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour débriefer ce match contre New England. Et puis Thomas, je te remercie de m'avoir tenu compagnie ce soir.
Bah écoute, merci à toi, puis merci à tous ceux qui nous écoutent.
Et à très bientôt.
À bientôt.